Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 28 janvier 1987.
Extrêmement intéressant à regarder dans Saint Thomas, dans la développement de la personne. Mais c'est intéressant de le regarder aussi chez les pères grecs, avec tous les conciles, la manière dont le mot « personne » s'est introduit. Or, au plan philosophique, où nous nous plaçons, hein, puisque nous ne faisons pas de la théologie, nous faisons de la philosophie. Mais là, le philosophe est obligé de constater, c'est un fait qui peut être très douloureux pour certains philosophes, qui ne l'est pas pour nous, que notre culture philosophique occidentale est passée par les théologiens. C'est pas drôle pour beaucoup d'avoir des grands-pères théologiens. Ça explique beaucoup de choses. Ça n'existe pas, voyez, dans l'Inde. Dans l'Inde, on est resté au niveau religieux. La philosophie grecque se développe dans un climat religieux. Je vous l'ai dit hier à propos du stoïcisme. C'est Zeus, avec un très grand respect. Il y a très peu d'athées philosophes grecs. Il y en a. Avec les sceptiques, sont les premiers. Les sceptiques ont réagi violemment et ont pris une attitude athée, c'est-à-dire athée anti-religieuse. Et c'est là où on voit que l'athéisme prend des modalités très différentes, puisque c'est négatif. On est anti. Si vous regardez Polos, par exemple, les stoïciens, les plus véhéments, sont anti-religieux. Donc, l'attitude religieuse, c'est un mythe. Essayons de comprendre l'attitude humaine qui est rationnelle. Bon. Platon a été le premier apologète pour montrer qu'on ne pouvait pas nier Dieu et l'attitude religieuse. Donc c'est chez lui qu'on retrouve en premier lieu des preuves de l'existence de Dieu. C'est chez Platon, faut pas l'oublier. Chez Aristote, il y a une découverte de l'existence de Dieu, mais on peut pas dire qu'il y a des preuves. Parce que qui dit preuve dit une attitude apologétique. Faut pas l'oublier. Donc elle n'est pas proprement philosophique. Chez Aristote, il y a une démarche pour montrer que nécessairement il faut affirmer un être premier. Mais l'existence de cet être premier est donnée en premier lieu par des attitudes, par les traditions religieuses. Donc on trouvera chez les Grecs une attitude d'opposition vis-à-vis des traditions religieuses chez les sophistes et chez les sceptiques. C'est très important de voir que les sceptiques, comme tels, rejettent toute vision métaphysique en raison d'une conception réflexive critique. La perfection de l'intelligence humaine, c'est l'épopée qui manifeste bien la supériorité de l'esprit. L'épopée. Suspension. Un être intelligent, c'est celui qui n'affirme jamais. Il y a un petit quelque chose comme ça dans la coterie intellectuelle d'aujourd'hui. C'est une petite coterie, ça. Il n'y a rien. Vous paraîtrez toujours intelligent quand vous n'affirmerez pas. Il faut le savoir. Dans certains milieux, il faut faire ça. Surtout, dites, je suis en recherche. Alors ça, alors, vous êtes très intelligent. Si vous avez trouvé, vous êtes un imbécile. Je dis ça, c'est comme ça. C'est un certain climat. Il faut le comprendre. Parce que on doit être plus intelligent que les critiques qui ne sont pas très intelligents. Donc, il faut être plus intelligent qu'eux. Donc, il faut comprendre que l'époque sciences humaines, ne pas affirmer, ne pas nier, mais demeurer au-delà, dans une volonté de non-jugement, d'attente, de suspension. Cette supériorité du sage est très négative, ne pas affirmer, mais elle laisse une capacité, une possibilité indéterminée, illimitée. Je crois que c'est le primat du possible. C'est un aspect de la subjectivité qui s'introduit et qui s'impose. C'est les Pyrrhoniens chez les Grecs. C'est quelque chose de très intéressant qu'on n'étudie pas beaucoup, mais qui est une attitude extrêmement intéressante. Le pyrrhonisme, la critique qui consiste à ne pas affirmer. Vous voyez, une espèce d'agnosticisme, si vous voulez. C'est pas un athéisme, c'est un agnosticisme. Alors, évidemment, en face de ceux qui sont dans cette attitude de l'époque, la foi, les théologiens, ce sont des dogmaticiens. Donc, des ennemis numéro un. Ce qu'ils affirment. Mais Merleau-Ponty disait ça admirablement. Parce que le premier Merleau-Ponty, le second est un peu différent, mais le premier Merleau-Ponty disait ça admirablement quand il disait « Je n'aime pas de parler des catholiques parce qu'ils savent. » Il disait pas « parce qu'ils se trompent, mais parce qu'ils savent. » Et pour Merleau-Ponty, puisque Merleau-Ponty était catholique quand il était anormal, il faisait partie des talents, il était même président, donc il était catholique, puis il a abandonné progressivement et il a pris cette attitude alors d'une recherche et d'une recherche constante. Le propre du philosophe, c'est de rechercher. Le propre du philosophe, c'est d'interroger. Vous voyez, tout ça se tient. La métaphysique, c'est dans l'interrogation pour Heidegger. C'est très très important de comprendre cette attitude-là. On attend Dieu. On n'affirme pas qu'il existe. On attend qu'il se manifeste. Le philosophe doit attendre. Donc une attitude de suspension. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre cette attitude-là. Parce que dans certains milieux intellectuels, surtout n'affirmez pas. Cherchez. C'est la seule manière qu'il faut faire. C'est pas la peine d'affirmer. Vous mettez en colère. Vous savez bien ce grand principe de saint Thomas. La correction fraternelle, on ne doit la faire que quand on sait que c'est efficace. Autrement, on ne la fait pas. Bien, la correction fraternelle vis-à-vis des intellectuels, a fortiori. On n'affirme pas, on cherche. C'est vrai, du reste, on cherche toujours. C'est une attitude de vérité fondamentalement. Tant qu'on est sur la terre, on cherche. Personne d'entre nous n'oserait dire « J'ai atteint le sommet. Maintenant, j'ai plus qu'à me reposer. » Mais non, on cherche. Tant qu'on cherche, on reste un enfant. Alors c'est la béatitude des petits. Donc c'est très bien, on cherche. L'enfance évangélique implique qu'on cherche, mais en même temps qu'on sait. C'est ce que les autres n'affirment pas. On affirme, mais on cherche. On sait, et en même temps on cherche. Toujours une porte ouverte. Bien, je crois qu'il y a un problème ici. Extrêmement intéressant avec le problème de la personne. Y a-t-il deux métaphysiques? Je le pose tout de suite. Parce que c'est le problème sous-jacent. Y a-t-il deux métaphysiques? Une métaphysique de l'être, une métaphysique de l'esprit. Mais au fond, c'est le problème fondamental. Et qui se noue dans la personne. Le père de la métaphysique de l'un et l'intelligence au-delà de l'être. Faites ce petit rapport et essayez d'y réfléchir en demandant à Thomas d'Aquin de vous donner la sagesse divine qu'il prie pour que vous la receviez. Alors, vous avez l'être, le Do-on et l'esprit. Deuxième métaphysique, l'un, la métaphysique de l'un. Augustin et Bonaventure. On peut dire ça. Qui est toute une perspective des spirituels, de la mystique, qui met le primat de l'amour et qui insiste sur le primat de l'amour. Et au plan philosophique, on aura la métaphysique de l'esprit, la métaphysique de la personne, qui sera au-delà d'une métaphysique de l'être. Le primat subjectif, comparativement au primat objectif, en gros. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire une synthèse? Puisque de fait, selon un développement historique, on voit qu'il y a ces deux tendances. L'une presque toujours victorieuse de l'autre. Le néoplatonisme est victorieux par rapport à l'aristotélisme. Si je regarde un peu les choses matériellement, historiquement, c'est très vrai. Il faut le reconnaître. Le néoplatonisme a une séduction bien plus grande que l'aristotélisme. Si on est chrétien, il y a en nous le primat de la mystique. Et le primat de la mystique nous fait toujours un tout petit peu orienter vers le néoplatonisme. Alors on dira, mais il y a la théologie scientifique de saint Thomas, Aristote. Oui, alors on prendra les deux. Et on restera dans un dualisme. Et le père du mal sentait très fort ça. Alors n'y a-t-il pas possibilité de faire un dépassement? Vous voyez, parce que le primat de l'esprit est le primat de la conscience. C'est la conscience qui prime. Le primat, cogito, je pense, c'est ce qu'il y a de premier. L'être vient en second. Et l'être est pensée. Et donc, il est dépendant de la pensée. Il n'est pas premier. C'est la pensée qui est première, c'est l'aspect subjectif qui est premier. Et donc, la conscience que j'ai de pensée, puisque je ne pense que quand j'ai conscience de pensée. Et donc, la conscience, en définitive, l'attitude réflexive, est première. Et c'est ça la personne. Vous voyez, le problème de la personne est au carrefour de tout ça. C'est un problème fondamental sur lequel il faut tout le temps revenir. Parce que, de fait, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il y en a une. La vérité ne peut pas être double. Elle ne peut pas avoir deux têtes. Il ne faut pas faire comme l'âne de Buridan. Alors, d'une part Aristote, d'autre part le néoplatonisme, eh bien toute ma vie, j'aurai un œil d'un côté, un œil de l'autre, et je dirais je ne peux pas choisir. Je suis mystique avec les néoplatoniciens, je suis aristotélicien avec saint Thomas dans sa théologie scientifique. Je suis subjectiviste, premier, le primat de la subjectivité quand je parle de la personne. Mais quand j'analyse, primat de l'être, alors il y a une dualité qui demeure. C'est très bon de sentir cette dualité. Il faut la sentir sous des formes diverses. Être, bien, amour, connaissance, Aristote, néoplatonisme, être, bien, il faut sentir ça, il faut le sentir. Sans aller jusqu'au drame. Parce qu'il y a encore une possibilité de tomber dans le drame. Alors c'est Nietzsche qui paraîtrait en premier lieu. On serait nietzschéen parce qu'on serait dans un drame et on ne saurait jamais choisir. Je crois qu'il faut, c'est pas choisir, c'est comprendre, saisir le statut particulier d'un esprit créé. Parce que l'esprit incréé qui est Dieu, lui, au-dessus de ces divisions. Et la synthèse, c'est peut-être Dieu, si j'ose dire. C'est pas une synthèse, mais c'est peut-être seul l'intelligence subsistante et personnelle qui est Dieu, en qui l'être et le bien ne font qu'un, en qui l'intelligence et l'amour ne font qu'un, en qui le point de vue de ce qu'il est lui-même dans sa pensée s'identifie avec son être. Alors que nous aurions une nostalgie d'être Dieu. C'est normal, puisque nous sommes des êtres spirituels. Mais on doit reconnaître le statut propre d'une intelligence participée, d'une intelligence limitée, d'un cœur, d'une volonté spirituelle, limitée. Qu'il y ait donc cette humilité du côté de l'intelligence pour accepter le réalisme. Parce qu'il faut être très humble pour accepter le réalisme. Je crois que la véritable humilité, c'est ça. C'est ce qui est dit dans l'écrit de temps, l'Apocalypse. La terre vint au service de la femme. C'est une chose extraordinaire. Hein? Et c'est vrai, il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut accepter qu'on est limité. Il faut accepter qu'il y a quelqu'un qui passe devant nous. Et c'est jamais drôle au point de vue de l'intelligence. Accepter que quelqu'un passe devant nous. Quelqu'un de plus petit que nous. La matière. Je crois que c'est la matière qui vous oblige d'être réaliste. C'est pour ça que dans le néoplatonisme, si facilement, on dit la matière non-être. C'est la matière qui vous oblige. Je n'ai pas le droit de supprimer la matière. Je n'ai pas le droit de supprimer le corps. Je n'ai pas le droit. Alors ça vous maintient dans un état de petitesse. Et la matière est présente dans la personne. C'est ça qui est extraordinaire. Dans la personne, il y a le corps. J'ai pas le droit de dire que ma personne, c'est mon âme. Non. Il y a la matière, il y a le corps. Et je suis lié au corps. Et le corps fait partie substantielle de mon être. Et c'est la matière qui me maintient dans le réalisme. Et se maintenir dans le réalisme, c'est pour pouvoir aller plus loin dans le point de vue mystique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de rivalité entre mystique et réalisme. Il n'y a pas de rivalité entre intelligence et amour. Mais il y a un ordre. Et je crois que, en définitive, on doit accepter cette diversité. Je ne peux pas tout ramener à la simplicité. Dieu seul peut le faire. Parce que la simplicité est l'apanage de Dieu. Tandis que ma personne est complexe. Et elle est très complexe. Mais elle a une unité dans la complexité. Et dès que je suis en face du problème de l'unité de la complexité, c'est une question d'ordre. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est second? Qu'est-ce qui est premier dans un ordre donné? Qu'est-ce qui est second dans un autre ordre donné? Et j'aurai toujours deux ordres. L'ordre de l'intelligence, l'ordre de l'amour. Et je ne pourrai jamais identifier les deux. Je serai toujours obligé de comprendre que dans un domaine particulier, l'intelligence est première. Et dans un autre domaine, l'amour est premier. Dans le domaine de l'intelligibilité, de la connaissance, l'intelligence est première. Et dans le domaine pratique de ma vie, l'amour est premier. Et que n'essaierai pas de faire une métaphysique, métaphysique, une métaphysique supérieure à la métaphysique de l'être et supérieure à l'éthique du bien. Je ne ferai pas une métaphysique qui dépasse l'aspect objectif et l'aspect subjectif. J'accepterai que dans toute analyse de la connaissance, il y a prima de l'objectivité. Et que l'aspect subjectif est second. Et que dans l'amour, l'aspect subjectif, je ne dis pas est premier, parce que le bien reste toujours premier, mais que je suis lié au bien, au-delà de la connaissance. Cette phrase extraordinaire du curé d'Ars, je l'ai aimée avant de la connaître, quand il dit ça de Marie. Cette femme que j'ai aimée avant de la connaître. C'est tellement beau, ça. Et c'est Pascal. Il y a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est le cœur. Et ça, oui, un réaliste doit le reconnaître. Il y a dans ma volonté, dans mon cœur, des dépassements qui sont au-delà de la connaissance. D'où le primat de la mystique dans l'ordre pratique. Et ça, une vraie métaphysique doit le reconnaître. La grandeur de l'intelligence, c'est de s'effacer devant l'amour. Voyez les deux effacements de l'intelligence, la matière et l'amour. Et l'intelligence s'efface devant la matière, parce qu'elle reconnaît qu'il y a dans la matière quelque chose qu'elle ne peut pas saisir. Et elle reconnaît que dans l'amour, il y a toujours quelque chose qu'elle ne peut pas saisir. Et le problème de la personne, ce sera d'unir les deux. Parce que je crois que c'est ça le problème de la personne, c'est d'unir les deux. C'est d'unir les deux en moi. Et de comprendre qu'en Dieu, les deux sont dans la simplicité absolue. C'est ça la simplicité de Dieu. Tandis qu'en moi, il y aura toujours cette tension. D'où l'intérêt, voyez, de Nietzsche. Nietzsche me rappelle qu'il y a un drame surhumain, spirituel, le drame de l'esprit créé. L'esprit a beaucoup de peine d'accepter qu'il est créé. C'est très difficile pour l'esprit d'accepter qu'il est créé. Il n'accepte qu'il est créé que quand il découvre dans le Créateur le Père. Ah non, il l'accepte. On accepte la paternité. Et c'est vrai que c'est la paternité que l'esprit seul peut reconnaître. La création, c'est très difficile. Parce que l'esprit a son ses mauvais rêves, a son autonomie. Et la personne a son autonomie. Radicale, fondamentale. Et donc, si elle a son autonomie fondamentale, la personne comme telle est-elle créée? C'est l'âme qui est créée. C'est pas la personne au sens absolu. Alors vous allez me dire, c'est l'âme subsistante. Oui, c'est l'âme subsistante, mais c'est l'âme dans le corps. Et donc, il y a quelque chose dans la personne qui est, je ne dis pas au-delà de la création, parce que ce serait stupide, mais qui passe immédiatement dans la dépendance de la créature. Voyez, je soulève ces problèmes parce que ça m'a un tournant ici. Hein. Ça m'a un tournant. Nous sommes devant une vision nouvelle de la personne qui est celle des théologiens. Et ça, c'est capital pour notre philosophie occidentale. Si on ne comprend pas ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans notre philosophie occidentale. Notre philosophie occidentale a commencé par les traditions religieuses. Notre philosophie occidentale a été absorbée par amas de peau, hein. Ils absorbent les petits lapins vivants. Et c'est vrai que notre philosophie occidentale a connu pendant 14 siècles, 15 siècles, les théologiens. Et la philosophie était sous le couvert des théologiens. Et la théologie était gardienne de la philosophie. Alors il y a eu un moment de révolte. C'est impossible de rester sous la domination des théologiens. Surtout que les théologiens, quelquefois, ont la dent dure. Quand les théologiens ne sont pas mystiques, ils sont assommants. Quand ils sont mystiques, ils sont tolérables. Pour le philosophe, hein, je parle pour le philosophe. Quand les théologiens sont mystiques, on peut continuer de parler avec eux. Mais quand les théologiens ne sont pas mystiques, la méthode prime et ça devient quelque chose d'effrayant. Et ça, il faut le reconnaître, il faut reconnaître ça. Parce que les théologiens sont nos frères, il faut les connaître. Et puis on est théologiens aussi. Puisque tout chrétien, un peu philosophe et théologien, il fait tout de suite sa petite synthèse. Ce besoin de synthèse en théologie qui est assommant. Et ça vient de la théologie, ce besoin de synthèse. Il ne faut pas l'oublier. Ce besoin de synthèse qui fait que la méthode, la logique passe devant. Alors quand le théologien est mystique, ça va. Parce qu'il respire. Le mystique, c'est celui qui respire à deux poumons. Parce qu'il aime. Alors il y a un primat de l'amour. Alors tout est tolérable. Mais quand il n'y a pas ce primat de l'amour, et quand l'amour n'est pas vécu vraiment dans son absolu, ça devient souvent très intolérable. Je crois qu'il faut sentir ça avec le problème de la personne, vous voyez. C'est un carrefour, la personne, c'est un nœud extraordinaire. Alors, c'est très intéressant de bien saisir ça. Vous voyez, faites le parallélisme, hein, entre hypostasis aristotélicien, hypostasis de Plotin, la personne telle que les théologiens l'ont conçue et la personne telle que Freud l'a connue. C'est toujours un nœud. Il y a un nœud dans le sommet, il y a un nœud dans le bas. Le complexe de type, c'est un nœud. Alors, nous retombons dans l'hypostasis aristotélicienne. Vous voyez bien, c'est assez amusant de voir ça. La grande montée, la grande descente, ça dépend où on se situe. Quand on se situe dans la montée, ça va. Quand on se situe dans la descente, c'est plus ennuyeux parce qu'on ne sait pas si on va en sortir. Et c'est intéressant de voir ça. Et c'est la personne qui est là, au cœur. Qu'elle soit nommée ou qu'elle soit pas nommée, elle est au cœur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que avec la personne, on est obligé de dépasser l'analyse. On est obligé, on ne peut pas rester dans l'analyse. L'analyse, c'est propre. L'analyse, c'est clair. La personne, c'est complexe. C'est pas simple du tout. C'est complexe. C'est pour ça que ça a mis du temps philosophiquement être regardé. Et on l'a bien vu chez les stoïciens, c'est pas net, c'est le prima du choix, c'est la liberté, c'est la dépendance à l'égard d'autre chose. C'est très délicat, prima de la subjectivité. C'est très complexe la personne. Alors, le premier père de l'Église latin pour nous, c'est saint Augustin. Et il serait très important de bien le comprendre chez lui. Mais je vais simplement indiquer, hein. La théologie de la personne demeure complexe. En effet, si persona est chez lui un terme absolu et non un terme relatif. Ça, c'est toujours très intéressant de regarder ça. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'en sont pas moins des relatifs purs, excluant, semble-t-il, toute subsistance. C'est ça qui est intéressant à regarder. De même, il est assez difficile de distinguer chez saint Augustin le rôle de la personne et celui de la nature dans l'acte de la procession. Et c'est vrai, ça. Le rôle de la personne et celui de la nature dans l'acte de la procession. C'est tout le mystère de la très sainte Trinité, autrement dit. Alors ceux qui sont un tout petit peu dans la très sainte Trinité chez saint Thomas voient un tout petit peu le problème. Il semble que, vous voyez, ce sont des purs relatifs excluant toute subsistance. Ce n'est pas la relation subsistante qu'on trouve dans saint Thomas. Alors ça, c'est du saint Augustin. Saint Augustin reste un point de vue assez vital. C'est pas étonnant, il est platonicien. Platon a joué un rôle très important dans sa vie. Ça l'a fait sortir du manichéisme. Mais pas totalement. Pas totalement. Dans son approche du mystère de la très sainte Trinité par le point de vue de l'imago Dei, saint Augustin définit la personne humaine comme une substance rationnelle consistant d'âme et de corps. L'âme elle-même possédant en elle-même trois éléments, mens, notitia, amor, ou encore memoria, intelligentsia, voluntas. On est dans l'imago Dei. Alors c'est ça qui est très très curieux et intéressant à voir, le passage de l'imago à la persona. Le passage de l'image à la personne. On peut dire que chez saint Augustin, c'est quand même le point de vue de l'image qui reste dominante. Et on comprend très bien, puisque c'est le terme biblique. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. On ne dit pas que Dieu nous a créés comme des personnes. Non, 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 pas du tout. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dans le terme imago, il y a relatif au modèle. Et donc, la vision de l'écriture est une vision avant tout dans la création. C'est le créateur qu'on regarde en premier lieu. Et tout est vu dans la lumière du créateur. Et si tout est vu dans la lumière du créateur, on regarde l'homme comme image de Dieu. Créer l'image de Dieu à la ressemblance. Et dans l'image de Dieu, on verra mens, notitia, amor, ou memoria, intelligentsia, voluntas. Les trois aspects. L'aspect trinitaire. Le reflet de la très sainte Trinité dans l'imago Dei. Et c'est ce reflet de l'imago, c'est ce reflet de la très sainte Trinité dans l'imago Dei qui sera, j'allais dire, la voie d'accès à toute sa réflexion théologique sur la très sainte Trinité. Découvrir la mémoire, l'intelligentsia et la voluntas, le Père, le Fils, l'Esprit, qui sont marqués en nous. Alors, ne disons pas